vous avez une belle collection de bottes.
Oui. Ouais, il y en a pour tous les pieds, là, toutes les pointures. On peut prêter des bottes pour le bébé de 18 mois jusqu'aux pointures 47. Voilà, on a tout en stock.
Vous nous emmenez où, Charles ?
On va aller voir les jardins. Là, c'est le four à pain qu'on a construit quand on a créé la ferme. En fait, c'est une ferme très diversifiée. C'est-à-dire qu'on a des animaux, on a des moutons, chevaux, ânes, poneys, etc. Basse-cour, bien sûr. On a beaucoup d'arbres, donc il y a une partie arboriculture importante, petits fruits. Il y a beaucoup de plantes aromatiques. Et puis aussi les légumes. Donc le maraîchage est la principale activité, mais pas la seule. Et on est également ferme pédagogique, donc on accueille beaucoup de classes. Et puis, il y a cette activité formation qui a pris de l'importance. Et puis, le programme de recherche. Donc, les journées sont bien remplies, on ne s'ennuie jamais.
Et en janvier-février, comme ça, qu'est-ce que vous cultivez en particulier? C'est quoi les cultures?
Il y a tous les légumes d'hiver. Alors, il y a ceux qu'on connaît traditionnellement, les poireaux, les choux. Il y a des petits navets, il y a de la mâche, des épinards. Et puis, comme on est un peu touche-à-tout et curieux, on rajoute plein de petites choses qu'on connaît nous, comme plein de petits choux chinois. Alors, il y a plein de variétés dans tout ça. Alors, bien évidemment, on a encore toutes les courges qui, elles, ont été récoltées, qui sont stockées et qu'on vend au fur et à mesure. Mais on essaye de sortir un petit peu des sentiers battus avec cette fameuse petite verdure qu'on ne connaît pas, comme par exemple la clétonne de Cuba, des choses comme ça. Ce qui sont des petites feuilles, des petites pousses, des jeunes pousses de verdure, donc pleines de vitamines en plein hiver, mais qui résistent aussi au gel.
Et au Japon, ils ont pas mal de jeunes pousses qui résistent bien au froid. Et certains amis nous en envoient des graines du Japon, de Corée ou des États-Unis aussi. Donc on a des Mizuna, des Mitsuba, voilà, des pousses qui vont bien résister au froid. D'accord. On vous emmène voir si vous voulez.
Avec plaisir, je vous suis.
Permaculture, Lucie Sarfati, François Test.
Vous voulez qu'on commence par un tour des jardins ou...
Oui, bien.
Ou vous avez envie de boire un petit café ou un thé?
Un café.
La petite ferme du Bec-et-Loing a vu le jour en 2004. Au départ, une quête de sens et de produits sains, une terre peu fertile dans la vallée normande et peu de connaissances du métier d'agriculteur. Aujourd'hui, pourtant, la ferme de Charles et Perrine est devenue une référence en matière de micro-agriculture naturelle. En appliquant les principes de la permaculture au maraîchage, ce couple de nouveaux paysans cherche à inventer justement une nouvelle façon d'être paysan, dans le respect du sol et sans recours au pétrole. Mais sur une superficie de la taille d'un grand jardin, une telle exploitation est-elle viable? Une approche profondément écologique peut-elle être rentable et permettre d'imaginer des solutions pour l'agriculture de demain? Nous avons voulu découvrir le quotidien de cette ferme en permaculture. Visite guidée avec Charles et Perrine Hervé-Gruyer.
Nord de la rivière, il y a les bâtiments. Donc là, on aperçoit le poulailler, il y a les toilettes sèches qu'on a construites. Là, il y a notre plage parce qu'on a creusé une plage au bord de la rivière. Donc, c'est très agréable de se baigner en été. Moi, mon rêve, c'était un peu de vivre comme un Indien, mais en Normandie, parce que pendant une quinzaine d'années, j'avais partagé la vie des peuples premiers et j'adorais voir les enfants indiens se baigner dans le fleuve, etc. Et quelque part ici, on est dans le monde moderne, hein, on a internet et tout ça, mais on se baigne aussi dans la rivière, on travaille avec un cheval, on se nourrit de nos produits, on fabrique nos outils en partie. Donc on cherche à faire une synthèse, à prendre le meilleur de diverses traditions et aussi le meilleur de la modernité pour inventer un mode de vie qui soit en phase avec nos aspirations, avec nos rêves. Et ici, on arrive dans les jardins. Alors, cette parcelle fait 1,2 hectare. Et il y a 8 ans, c'était un grand herbage d'un seul tenant. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait rien. Et c'est devenu une mosaïque de petits milieux. Vous voyez, il y a des arbres fruitiers absolument partout. Il y a des mares, on voit les cabanes. Là, tout à l'heure, il y avait un martin pêcheur qui passait. Il y a des îles jardins, il y a la forêt jardin à l'ouest. Et là, il y a des serres, il y a toutes sortes de jardins. Au fond, il y a le jardin mandala. Donc finalement, à partir d'un bête herbage assez médiocre d'un hectare deux, on a une mosaïque de petits écosystèmes qui interagissent, qui s'interpénètrent, qui profitent les uns des autres. Parce que la permaculture, c'est un peu l'art de s'inspirer de la nature. Et effectivement, ce qui caractérise le monde naturel, vivant, c'est qu'il y a une grande biodiversité, mais les éléments sont très connectés entre eux. Tout interagit, tout échange, il n'y a pas de déchets. Les déchets de l'un deviennent la ressource de l'autre. Donc finalement, la nature a un génie inimaginable, et à partir de très peu, elle produit vraiment beaucoup, et durablement, et sans générer aucune pollution.
Je m'appelle François Léger, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech, qui s'appelait avant Institut National Agronomique, et j'appartiens à une unité de recherche qui s'appelle SADAPT, Sciences pour l'Action et le Développement, Activités, Produits, Territoires, qui a la particularité d'être une unité de recherche pluridisciplinaire, donc entre l'INRA et AgroParisTech.
François Léger, qu'est-ce que la permaculture ?
Alors, la permaculture, c'est quelque chose qui apparaît en fait dans des mouvements alternatifs, d'aucuns diraient hippies, dans les années 60-70, enfin 70, à la fin des années 70, en Australie, avec l'idée de comment faire pour survivre de façon la plus autonome possible et en étant le plus économe possible dans sa relation à la nature. Il s'agit de produire en privilégiant des formes de production alimentaire, mais également de production énergétique, mais également de gestion de l'eau, qui vont permettre, sur un lieu qui a ses propriétés, hein, qui sont évidemment variables suivant les cas, en comprenant comment fonctionne ce lieu du point de vue de l'écologie et donc de ce lieu comme un écosystème, de s'appuyer sur cette compréhension pour inventer des systèmes les plus autonomes possibles. Et cette recherche d'autonomie correspond bien à une ambition de ces mouvements alternatifs des années 60-70, qui est la recherche d'une sortie du monde marchand, du monde industriel.
En Europe, est-ce que c'est développé cette application de la permaculture pour l'agriculture ?
C'est en fait très peu développé en Europe. Il y a très peu d'expériences qui se revendiquent explicitement de la permaculture. Après, si parmi toutes les expériences alternatives qu'on peut identifier, on pourrait dire qu'il y en a beaucoup qui font de la permaculture en quelque sorte sans le dire. En particulier, je pense à des éleveurs qui, dans l'ouest de la France, ont décidé de ne pas se couler dans le moule de la production de lait avec du maïs et de rester sur des prairies. Et pour pouvoir penser l'alimentation d'un troupeau sur un ensemble de prairies, il faut bien cette pensée globale, cette pensée du lieu, qui est une des caractéristiques de la permaculture. Mais les gens qui ont travaillé là-dessus ne connaissaient pas la permaculture, ne s'y réfèrent pas, ne se disent pas permaculteurs, bien sûr.
Vous dites que vous êtes les assistants des vers de terre.
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile de tomber amoureux de la terre, ni des vers de terre. J'irais donner de l'argent pour les dauphins ou sauver les bébés phoques. C'est plus sexy, quoi. Mais on est devenu vraiment amoureux de notre terre. Et finalement, ici, on a fait le choix de se passer d'engins mécaniques pour travailler le sol. Et c'est pas un choix évident, parce qu'on vit notre métier quand même. Et donc, un agriculteur qui a un tracteur, quand il tourne la clé de contact, il a la puissance de plusieurs centaines d'êtres humains qui travaillent pour lui instantanément et à faible coût en plus. Et nous, on a choisi de se passer de ça. Est-ce que ça veut dire qu'on est tout nu et désarmé et très faible ? Pour autant, eh bien finalement, non. Parce qu'on s'appuie sur d'autres formes d'énergie, d'autres puissances, d'autres forces. Et notre première force, c'est d'avoir un sol de plus en plus vivant. Et dans chaque cuillère à soupe de sol, on a des milliards d'êtres vivants. Des champignons, des bactéries, des micro-organismes, des vers, etc. Des crustacés. Et qui travaillent pour nous 7 jours sur 7, jour et nuit. Et qui ne nous présentent jamais une fiche de paye, qui ne partent jamais en congé payé, qui n'ont pas d'état d'âme, etc. Donc, en rendant le sol de plus en plus vivant, en stockant de l'énergie, l'énergie du soleil, dans les arbres, dans les mares, dans les animaux, etc., même dans l'humus du sol. L'humus, c'est de l'énergie solaire stockée dans le sol, vous voyez. Eh bien, du coup, on a une sorte de puissance certes diffuse et douce, mais qui est partout présente dans ce micro-système, en fait. Et on s'appuie sur cette puissance. Et en permaculture, on dit toujours que chaque élément doit remplir plusieurs fonctions, et chaque fonction doit être remplie par plusieurs éléments. Donc là, par exemple, ici, on est sur notre île. Du côté ouest, on a la forêt-jardin. Alors, elle donne bien sûr plein de fruits, de petits fruits, mais elle nous abrite des vents dominants. Donc, on crée ici un microclimat plus chaud grâce aux mares et aux arbres, et moins venteux, ce qui est bénéfique aux légumes. La mare, elle crée aussi un microclimat. Là, on regarde, elle reflète à peu près 30% du rayonnement solaire, arrive de manière indirecte par le reflet sur l'eau. Et puis l'eau joue un rôle de tampon thermique. Et puis alors, dans la mare poussent en abondance, on les voit un peu ici, des roseaux qui poussent très vite, parce qu'en milieu lagunaire, comme ça, les plantes aquatiques poussent très vite. Donc on les coupe, ils servent à nourrir nos animaux, ou on les met en paillage sur nos buttes de culture. On récupère aussi la vase des mares, qui est enrichie par les déjections des poissons, des canards, etc. Et c'est un super fertilisant. Donc finalement, cette île est connectée par tout un tas de liens avec son environnement immédiat, et ça permet de soutenir l'énorme productivité de ces buttes, où on fait 4, 5, 6, parfois jusqu'à 8 rotations de culture par an, ce qui semble incroyable à l'heure actuelle. Et ce milieu ne s'appauvrit pas, au contraire, il devient chaque année plus luxuriant et plus productif. Et c'est très satisfaisant. La nature nous invite à faire preuve de sagesse pour le bien de tous nos compagnons de voyage, pour notre bien, nous, et le bien de tous nos compagnons de voyage. Mais j'entends la cloche qui sonne, c'est l'heure du déjeuner. On va aller manger.
Les
filles, vous reprenez un peu de velouté au petit marron. Fais-nous, t'as rien pris.
Je vais goûter.
Je t'en sers.
Non, je vais goûter.
Tu l'as goûté quand, chacun?
Là, non, tu l'as pas, même pas encore goûté, tiens. Goûte.
J'ai dit je vais.
C'est fait avec les petits marrons.
Bah oui, on mange les produits de la ferme, hein. Velouté de petit marron en entrée, graines germées, je sais pas après ce que Périne nous a préparé. Là, il y a
une omelette, c'est ça?
Une omelette avec les œufs des poules, des pommes de terre, et puis une compote pomme potiron pour changer en dessert.
Maman, faut écouler les courges là, on va pas
faire. Ouais, c'est vraiment la période des courges. Mais en plus, c'est très bon parce que c'est un légume assez magique, la courge. C'est le seul légume qui continue à maturer d'une certaine façon une fois récolté, c'est-à-dire qui continue à prendre des vitamines, des nutriments, etc. C'est plein d'hydrates de carbone, donc c'est exactement ce dont l'organisme a besoin en hiver pour tenir. Hein. C'est l'hydrate de carbone, c'est ce qu'on trouve dans les pâtes, le riz, etc. Mais là, on ne mange pas des féculents, on mange du légume truffé de minéraux, de vitamines, et qui en plus tient au corps. Donc c'est plutôt intéressant comme légume. Donc effectivement, l'hiver, c'est un peu la courge à toutes les sauces, mais plein de façons de rendre la courge assez sympa en cuisine. Nous, on fait des crêpes. Alors, les filles, elles me disent, oh, encore de la courge. Il y a des crêpes orange, c'est des crêpes à la courge. Du pain à la courge, la brioche à la courge, des gâteaux courge chocolat, des tartes courge chocolat, des gratins de courge. Enfin, il y en a partout, de la courge.
Quand vous êtes installée, il y avait cette volonté de nourrir vos enfants avec des produits sains. Ça faisait partie un peu du...
Pour moi, c'était l'essentiel. Pour moi, c'était le point d'entrée. Il n'y avait pas autre chose, pour moi, en tout cas. Hein. C'était vraiment l'alimentation et du coup, faire partager aux enfants. Mais c'est assez intéressant parce que ça nous rend moins dépendants de ce qu'on trouve en supermarché, donc d'une bouffe pas super, hein, même si parfois on est comme tout le monde, on prend des choses faites par d'autres, chez des artisans, bouchers, charcutiers, des choses comme ça, mais ça permet vraiment de se reconnecter, de connaître le vrai goût des aliments. Et de se dire, voilà, si demain il y a quoi que ce soit, je sais me nourrir seule. Je dis souvent, j'ai pas un grand frigo, il est rarement bien plein, mon frigo, parce que, voilà, mon garde-manger, il est là. Donc je sors, je me dis, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et je me pose pas la question de qu'est-ce que j'ai envie de manger, c'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, comment je le transforme. Voilà.
Il y a autre chose que les carottes crues, maman.
Pardon?
Il y a autre chose que les carottes crues.
Il reste
peut-être un peu de téton là-dedans, mais okay. Je pense que papa n'a pas remonté de frais.
Non,
les graines,
il n'y en a pas.
Là, c'est une petite serre. Cette petite serre-là, c'est celle qu'on avait installée au début pour nous, avant qu'on devienne agriculteur professionnel. C'était la petite serre familiale. D'accord. Mais je l'aime beaucoup et on y travaille toujours parce que comme elle est petite, on démarre nos semis un peu soignés au printemps. Et voilà. Et puis comme elle est juste à côté de la maison, on peut faire nos petites cueillettes facilement.
Alors, qu'est-ce que vous faites ici, là, dans la serre ?
Là, je prépare mes petits semis. Donc, ma terre est bien damée, etc. Et puis, j'ai une plaque, comme ça, que j'utilise pour marquer mes trous de manière extrêmement régulière et précise. Et puis après, j'enfonce mes petits picots dans le sol. Donc, là, je marque 100 trous d'un coup, parfaitement régulièrement.
Donc, ça fait des petits trous.
Et ensuite, je mets une graine par trou. Donc c'est une
pépinière.
Oui, à la main, oui.
C'est longué.
Et donc là, par exemple, je vais avoir 150 plants sur une petite bande de 40 cm de large par 1 mètre à peu près. Et après, soit je les récolte en jeunes pousses pour les consommer ou pour les vendre à un restaurant, ou alors je les déplante et je les repique après, voilà.
Dans les jardins cette fois-ci.
Dans les jardins, absolument. Peut-être avec un autre type d'abri, comme un voile de forçage, voilà.
Moi je nourris les canards et puis après je m'occupe du poulailler dans la serre.
On peut vous suivre ?
Ouais. Tiens mes canards. Tiens mes cancan. C'est nos collègues chasseurs de limaces. Mais tu vois là, j'ai fermé l'enclos parce qu'on s'est aperçu que à certains moments de l'année ils ont des petites fringales et si tu les nourris pas en plus. Normalement on les nourrit jamais. Le but qu'ils soient là c'est de chasser les limaces, donc ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent d'herbes aussi. Mais à certaines périodes de l'année, comme ces derniers temps, comme il y a un petit peu moins d'herbe et qu'elle est moins appétante pour eux, ben, on ne les a pas nourris pendant 2 semaines et en fait, ils se sont rués sur les choux. Donc là, on les a enfermés à nouveau dans leur enclos et puis on les nourrit. Parce qu'on essaye de faire en sorte que tous les animaux ici aient un rôle, un travail. Mais mine de rien, il faut composer avec ça. Il faut très bêtement avoir les bons enclos, bien connaître les animaux et leurs besoins. Pour pas déjà qu'ils soient éventuellement malheureux, qu'ils aient faim ou autre, et savoir à quel moment exactement on peut les utiliser, ne pas les utiliser, etc. Quoi.
Alors qu'est-ce que vous avez comme animaux ? À part les canards ?
Il y a la basse-cour, donc il y a les canards et les poules qui tous ont une utilité, un cheval de trait. Au-delà de ce travail qu'il nous offre, il entretient aussi en broutant l'herbe, il nous donne du crottin, donc du fumier. On a une ânesse aussi, qui a un petit peu le même rôle que Winnie, qui peut faire de la traction et qui porte pas mal, qu'elle a 2 paniers sur les côtés. Et puis, quand on ramasse des courges, par exemple, on remplit le bas de courges, ou quand on va chercher de la matière dans les bois ou là-haut, ça peut être des fougères, ça peut être des orties, pour mulcher, donc c'est-à-dire pour apporter une couverture au sol ici, eh bien, elle nous aide à porter. On a des petits poneys aussi, pareil, qui peuvent travailler en traction animale. Ça, on les utilise pas mal quand on a des petits groupes d'enfants et qui sont ravis de découvrir le travail avec un équidé. En l'occurrence, les poneys, c'est plus sûr. Des moutons également, qui entretiennent, qui nous donnent leur laine, que l'on consomme aussi, plus en autoconsommation. On ne les vend pas à la ferme. Et chacune de ces familles d'animaux travaille. Quand on veut mettre une surface en culture, par exemple, on met les moutons en premier. Ils mangent l'herbe, ils mettent bien l'herbe à ras. On fait sortir les moutons, on envoie les cochons qui, eux, alors là, vont nous retourner le sol à merveille. Ils vont se nourrir de tous les petits insectes, de toutes les petites graines, etc. Mais c'est un travail relativement grossier. Donc derrière encore, une fois que les cochons ont fait leur travail, on envoie les poules qui, elles, vont adorer aller gratouiller dans ce que tous les cochons ont laissé. Elles vont plus finement aller chercher toutes les graines d'éventuels adventices qui restent sur cette surface de terre. Et à partir de là, on est prêt à mettre en culture. C'est impeccable. Les chiens. Venez les chiens. Allez. Aux poules.
Bah, La particularité justement de la ferme du Bec-et-Loin, c'est que c'est une ferme qui va être fondée par des gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Au départ, c'est des gens qui s'installent avec la volonté d'abord de s'installer chez eux et de produire leur propre alimentation, au nom de principes plutôt, je dirais, hygiénistes, hein, d'une alimentation saine, de qualité, etc. Et puis qui petit à petit se rendent compte que l'expérience qu'ils conduisent, elle peut être étendue à une production destinée à des consommateurs voisins, etc. Et en fait, ce sont des gens donc, qui n'ont pas d'origines agricoles, qui ont une formation agricole tout à fait limitée, et qui vont par contre être des grands lecteurs. Et donc, ils vont lire les livres de Mollison et Holmgren sur la permaculture, donc des Australiens. Ils vont lire les bouquins d'un certain nombre de maraîchers nord-américains qui ont travaillé déjà depuis longtemps sur des très petites fermes. Donc John Givens, qui est un Californien, et Elliot Coleman, qui est lui dans le Maine, donc sur la côte est des États-Unis. Ils vont lire les ouvrages d'un Japonais qui est assez renommé dans ces mondes alternatifs, qui s'appelle Fukuoka, et qui, s'inspirant des agricultures anciennes asiatiques, développe un concept qui est celui d'agriculture naturelle. Et donc ils vont, eux, se revendiquer de la permaculture pour faire une ferme destinée à vendre des produits, hein, vendre des légumes et des fruits, en retenant de la permaculture, en particulier cette idée d'une organisation de l'espace qui permette d'en maximiser l'efficacité écologique, pour des choses comme ça, et d'autre part, sur l'attention extrême portée au bouclage des cycles des éléments nutritifs, soit sur la ferme elle-même, soit à l'échelle du tout petit territoire qui les entoure, par exemple en s'associant sans qu'il y ait de relations marchandes avec le centre équestre qui croule sous le fumier à côté, et ce fumier dont ils ne savent pas quoi faire, que eux vont récupérer pour fabriquer leur ferme, en quelque sorte, fabriquer les sols de leur ferme.
Un végétal va être bien enraciné, c'est vrai pour un arbre, mais c'est vrai pour un chou, une carotte ou n'importe quoi, enfin un petit peu différent pour une carotte, mais plus il va aller chercher profond, plus il sera dans une situation de résilience par rapport aux événements climatiques un peu forts. Un gros coup de vent et le truc va pas se déraciner, il va rester. Une inondation, il va pas forcément pourrir parce qu'il va aller, il va aller se camoufler plus loin. Et ce faisant aussi, c'est là qu'il va chercher un maximum de minéraux et de nutriments. Il ne va pas rester juste dans une couche de sol superficielle qui serait très vite, elle, complètement lessivée. Elle n'aurait plus rien à donner, quoi. Donc plus ils vont chercher profond, plus ils vont chercher l'eau, les minéraux, et plus aussi les petites bestioles invisibles là, qui nous aident à travailler tous les jours, c'est-à-dire les micro-organismes. On parle souvent des vers de terre, mais il y a aussi les micro-organismes du sol qui ont un rôle fondamental, et moi c'est un peu mon dada. Eh bien, plus ces micro-organismes sont présents.
Je crois que vous, Perrine, aussi, vous êtes inspiré beaucoup des techniques japonaises, par exemple, d'autres pays pour ce travail sur le sol.
Oui, toute cette approche asiatique, pas que japonaise, mais asiatique de façon globale, c'est vrai que les Japonais sont souvent précurseurs, mais de la composition des sols et de la vie microbienne, donc des fameuses bactéries du sol, mais les bonnes bactéries, parce que souvent on a un regard assez tronqué sur le mot bactéries, mais là ce sont vraiment les bonnes bactéries. J'ai vraiment compris et découvert tout ça en me basant sur les recherches effectivement de Japonais et toutes les techniques ancestrales de fermentation, c'est-à-dire essayer de prendre un élément et par l'action de fermentation, qui est l'une des meilleures actions de préservation des vitamines et minéraux, améliorer cet élément. Par exemple, ce qu'on connaît, nous, dans notre gastronomie sur la lactofermentation, c'est la choucroute. La choucroute, c'est tout bête, c'est du chou qu'on a fait fermenter. Et les enzymes qui sont actives dans l'action de fermentation vont faire que non seulement le légume est préservé, les vitamines, les minéraux aussi, mais de par l'action des enzymes qui vont rester dans le végétal, eh bien notre corps va bénéficier encore plus que si on mangeait juste du chou cru. Et donc c'est ça qui va recomposer la flore intestinale. Et moi je fais souvent le parallèle entre le sol et nos intestins. Il y a une flore qu'il ne faut pas bousculer, sur laquelle il ne faut pas balancer tout un tas d'antibiotiques, par exemple, qui vont la tuer. Cette flore, bah, c'est la même chose. En agriculture, si on balance des pesticides, les pesticides vont venir à bout des pestes, c'est-à-dire des maladies, des ravageurs, mais forcément, ils vont venir aussi intoxiquer la flore.
Et c'est aider aussi à développer les bonnes bactéries.
C'est ça. Alors, on met en place tout un tas de pratiques, des plus simples aux plus techniques. Les plus simples, c'est quoi? C'est couvrir le sol.
On a vu tout à l'heure que vous avez mis des feuilles, par exemple, dans l'île jardin. Mm-hmm. C'était dans quel but?
Eh bien, c'est justement de mimiquer cette fameuse couverture de sol. C'est assez amusant parce qu'en permaculture, il y a un principe phare qui dit « Les déchets des uns sont les ressources des autres ». On essaye d'être dans un principe éthique de réutilisation de la matière pour éviter d'aller en ponctionner ailleurs de la nouvelle, quoi.
C'est dit, vous êtes en train de récolter avec un petit couteau.
Ouais.
C'est quoi?
C'est de la clétonne de Cuba, du pourpier d'hiver. C'est une petite salade. Là, elle est très jeune, donc on la mange comme ça, crue, avec une petite vinaigrette, c'est super bon. Ça croque sous la dent un petit peu, ça a du mordant, donc c'est chouette.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter?
Donc, je suis maraîcher depuis juillet, ici. Avant ça, j'ai suivi une formation ici, en 6 mois. Sur les notions de la permaculture et le maraîchage.
Vous connaissiez la permaculture avant de découvrir la ferme du Bec et Loin?
J'aspirais à tout ce qui était de courant agro-écologie. Et voilà, je baignais dedans, mais je ne connaissais pas encore le milieu de la permaculture.
Et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette approche, justement?
Travailler avec le vivant. Travailler avec lui, pas contre lui. Essayer de... Bah, c'est super captivant parce qu'on s'inspire constamment de la nature. On apprend énormément de nos erreurs parce que c'est très expérimental aussi ici. Et on est toujours en train de se remettre en question, toujours en train d'essayer. C'est très difficile de savoir, par exemple, pourquoi une culture a raté. Et du coup, le fait de mélanger plein d'approches différentes, ça permet d'avoir une créativité qu'on n'a pas forcément dans les autres milieux agricoles. C'est pas des planches de monoculture, c'est beaucoup plus plaisant à vivre au quotidien, travailler dans un truc où il y a plein de choses mélangées. Parce que la permaculture, c'est plus une boîte à outils qui nous aide à mettre en interaction plein de choses, mais c'est pas une mode d'agriculture en soi.
Avant, il nous fallait passer une première fois pour enlever les résidus de culture, désherber, puis aérer le sol en passant la grelinette. Et maintenant, on fait quasiment 4 opérations en une grâce à cet outil là qu'on a mis au point.
Alors qu'est-ce que c'est cet outil? Est-ce que vous pouvez le décrire? Parce que c'est un outil, ça a l'air un peu...
C'est un outil très simple, c'est une évolution de la grelinette. Tous les auditeurs qui ont un jardin naturel connaissent la grelinette. C'est un outil qui a des dents et qui ne retourne pas le sol, qui le décompacte, quoi, qui l'aère simplement. Parce que retourner le sol, c'est pas bon du tout pour lui, pour la vie du sol. Et simplement, la grelinette demande pas mal d'efforts, démolit un peu l'espace cultivé parce que ça fait des grosses mottes qu'il faut casser, etc. Donc c'est assez long. Et là, on a rajouté un cadre de dents horizontales, un rouleau. Donc c'est une évolution de la grelinette qu'on a baptisée Agrisette. Et en fait, cet outil est absolument génial parce que vous voyez là, je décompacte mon sol, les deux cadres dedans qui se croisent brisent les mottes. Et là, je pars d'une vieille planche de culture, j'ai rien fait, il y a les restes de culture, il y a les restes de paillage qui sont incorporés au sol. Et très rapidement, comme ça, et sans effort, j'obtiens un espace qui est tout prêt pour la culture suivante. Et sans une goutte de pétrole. Donc ça, c'est ce qui nous plaît beaucoup. C'est plus rapide qu'un motoculteur et ça ne crée pas les dégâts que le motoculteur engendre pour le sol. Et comme il est à la largeur de nos planches, de culture, nos planches, c'est une bande de terre cultivée. Donc il fait 80 cm de large. Et directement, il me remet ma planche impeccable, prête pour la culture d'après. Dans notre tradition d'agriculture européenne, on travaillait le sol. C'était fondé sur le labour qui retourne le sol, qui chamboule les horizons du sol. C'est-à-dire que on enterre la première couche d'humus qui est la plus fertile, la plus vivante, et on remonte le sous-sol minéral. C'est pas bon pour le sol du tout. Le bêchage dans les jardins de nos grands-parents ou dans les jardins habituels d'aujourd'hui, c'est pas bon non plus parce qu'on, pareil, on déstructure le sol. Alors que nous, on est sur un système de planches permanentes ou de buttes permanentes qui a aussi été pratiqué depuis la nuit des temps parce que les buttes permanentes sont attestées en Chine il y a 4000 ans, pratiquées chez les Incas, les Mayas, etc. Donc c'est un très vieux système, mais qui était très peu connu chez nous.
Regardez, on voit les vers de terre, là, même en cette saison, qui sont fringantes, qui sont absolument ravis. Ils n'ont pas trop froid, hein. ils sont quand même là en surface. Donc ça, c'est vraiment le signe. Parce que là, on est sur une planche qui n'était pas couverte, qui n'était pas mulchée. C'est vraiment le signe que notre sol est vraiment arrivé à une maturité, à une richesse assez sympa. Pour avoir par ce temps-là des vers de terre qui affleurent, là, c'est vraiment génial.
Et ça, c'est possible aussi parce que vous cultivez sur une petite surface.
Oui, voilà. Ça ne marche que si on est petit. Il y avait un jardinier maraîcher du 19e à Paris qui a dit « Choisissez la plus petite parcelle de sol possible et cultivez-la exceptionnellement bien ». C'est ce qu'on cherche à faire.
Est-ce qu'on pourrait appliquer ces principes de la permaculture aux grandes productions?
Ça pose des défis, et c'est vrai, nous, on n'a pas du tout la solution. Il faudrait qu'il y ait des groupes de travail avec des experts et des agriculteurs qui travaillent main dans la main. On réfléchit justement sur comment passer de toutes petites surfaces cultivées à la main à des grandes cultures, à de l'élevage de bovins, par exemple, qui, pour l'instant, sont très dépendants de moyens mécanisés. Mais il y a des solutions à trouver.
François Léger, vous êtes ingénieur agronome. Peut-on appliquer les principes de la permaculture aux grandes productions ?
Alors ça, c'est un défi assez considérable. En ce sens que ce qui est fait au Bec-et-Loing, par exemple, c'est le passage du petit potager à une surface de jardin plus importante. Et si on veut aller dans les champs, dans les vrais champs, les grands champs de blé, de betteraves, tout ce que vous voulez, on change complètement d'échelle. Et la question d'une pensée en permaculture à des échelles plus importantes, ça exige pas mal de réflexion. Pour autant, si on dit que les principes de la permaculture, gardons ce terme, on pourrait parler de principes d'agroécologie ou employer d'autres termes, c'est d'abord et avant toute chose de penser la façon dont l'activité agricole non pas se sert de la nature en lui étant extérieur, mais s'incorpore dans la nature et dans les mécanismes, dans le fonctionnement des systèmes qui sont des systèmes vivants, des systèmes naturels. À partir de ce moment-là, il est possible de penser avec les mêmes idées à des échelles beaucoup plus vastes. Néanmoins, qui dit échelle plus vaste, dit que par exemple, une des choses qui est faite au BEC, cette priorité au travail manuel, a une très grande attention qui passe par le travail manuel, parce que le travail manuel impose une proximité physique avec les plantes dont on s'occupe. On ne pourra pas avoir ça dans un champ de blé. Ça, c'est juste inenvisageable. En revanche, des principes comme ceux qu'on a dit, éviter de bouleverser les sols par du travail du sol trop poussé, chercher ce bouclage des cycles au maximum, par exemple en réassociant des productions d'élevage qui apportent une matière organique, ce sont des voies qui existent. Pour ce qui est d'une pensée paysagère de l'agriculture, il y a dans pas mal de recherches et d'expériences très concrètes d'agriculteurs qui vont faire des haies, faire de l'agroforesterie pour transformer le microclimat local, pour favoriser la présence d'auxiliaires de culture qui vont manger les pucerons, les parasites, etc. Et donc en fait, oui, on peut penser autrement l'agriculture. Alors après, est-ce qu'on doit revendiquer le terme de permaculture dans cette pensée autre, si on veut?
Tenez, allez-y, vous prenez.
Hein. Vous êtes Sacha.
Tout à fait. Donc je connais la ferme depuis 4 ou 5 ans maintenant. Avant, je travaillais dans l'industrie comme ingénieur en production. Et suite à une réflexion sur le sens de mon boulot, j'avais envisagé d'autres voies qui m'ont amené à la ferme, donc où je travaille depuis 2 ans maintenant.
Vous connaissiez la permaculture avant de découvrir la ferme ?
Oui, j'avais fait une formation, mais qui était uniquement théorique. Donc j'étais venu à la ferme justement pour voir un vrai site en production. Parce que sur le papier tout fonctionne, mais je voulais voir sur le terrain en fait. Et donc j'avais vu que ça fonctionnait.
Et qu'est-ce qui vous intéressait dans cette approche ?
Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que c'est à la fois conceptuel, il y a beaucoup de réflexion en fait. Il faut vraiment comprendre les choses, il n'y a pas de recette toute faite. Il faut trouver les solutions, les techniques les plus adaptées à soi et au site où on est. Et c'est en même temps très pratique. Et puis ça a du sens, quoi, tout simplement. Et je suis arrivé ici, alors je ne travaille pas directement dans les jardins, je m'occupe des formations et de l'analyse des données recueillies pour l'étude avec l'INRA. En fait, depuis 3 ans, il y a 1000 m² de parcelles cultivées qui ont été isolées, je dirais, précisément identifiées. Et on note, enfin les maraîchers notent tout ce qu'ils font par type d'opération, le temps qu'ils y passent, les quantités récoltées, etc. Et le but, c'est de voir effectivement, est-ce qu'il y a une performance économique derrière. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le voir est-ce que c'est vivable humainement. Donc la quantité de travail, c'est l'indicateur qu'on a retenu que ça représente. Puisqu'il est évident que si vous avez quelque chose qui est performant économiquement, qui permet de dégager un revenu en clair, mais qu'il faut bosser 80 heures par semaine toutes les semaines de l'année, personne ne voudra le faire et c'est normal. Au bout d'un an, on a fait un premier bilan et on a été nous-mêmes passablement surpris des résultats qui étaient très très encourageants. Et donc il y a quelques mois, j'ai refait un bilan et les résultats, c'était donc que les 1000 mètres carrés cultivés ont généré une valeur de récolte de presque 51 000 euros, ce qui est beaucoup plus important que l'année précédente encore, ce qui est très très bon, pour une somme de travail de 2000 heures dans les jardins, alors ce qui est beaucoup, hein, ce qui est clairement pas gérable par une seule personne, mais ça veut dire que, en fait, soit on génère assez d'argent pour salarier quelqu'un pour absorber les pics de charge, ou alors qu'il faut cultiver sur une surface plus petite, pour arriver à une charge de travail gérable par une seule personne. Les deux axes de travail pris effectivement dans la ferme sont une toute petite surface, et pour que ça marche, il faut que ce soit très très soigné. Il faut vraiment que chaque légume, quasiment, les maraîchers sachent où il en est. Et pour que ça marche, il faut tirer parti au maximum de la petite surface en trouvant des outils adaptés, par exemple, à nos pratiques. Alors que souvent, l'inverse, c'est on adapte la pratique à l'outil. Ici, c'est exactement l'opposé qu'on fait. On se dit, on veut faire ça pour aller au plus près des besoins du légume, pour être au plus près du confort du travail du maraîcher, par exemple. Et donc, on va inventer ou trouver, chercher des outils quasiment sur mesure pour nous.
John Jevons, qui était un de nos inspirateurs américains, le père de la micro-agriculture bio-intensive, l'écrivait déjà dans son manuel paru dans les années 70. Il disait un bon jardinier maraîcher avec une bonne terre peut produire autant de légumes à l'heure qu'un maraîcher avec son tracteur. Oh, je me disais, est-ce que c'est vrai? Ça semble impensable. Et maintenant, nous, on voit vraiment, l'étude valide le fait qu'on produit autant de légumes à l'heure qu'avec un tracteur. Mais sur beaucoup moins d'espace, avec moins de frais de fonctionnement, et une qualité de vie aussi qui est là, parce que c'est un modèle de grand jardin, quoi. Et un jardin, c'est beau. Après, je voudrais pas donner à croire que c'est facile.
François Léger, une des questions essentielles, c'est est-ce qu'on peut vivre d'une exploitation maraîchère en permaculture? Et vous, en tant qu'ingénieur à AgroParisTech, vous avez étudié la question de la rentabilité.
Moi, ça ne m'étonnait pas qu'on puisse y arriver, dans la mesure où aux États-Unis en particulier, ou au Canada, il y a des gens qui arrivent à effectivement tirer des revenus sur des très petites fermes. Mais les résultats qu'on a obtenus au BEC sont assez impressionnants. Enfin, sont très perturbants. Par rapport aux recommandations classiques, y compris en agriculture biologique, qui proposent des tailles de culture qui sont 5 à 10 fois plus importantes pour rémunérer une personne. Alors après, je ne suis pas sûr qu'une personne 1000 m² toute seule, ça fonctionne. Je pense qu'il faut être un peu plus grand et être un peu plus nombreux, parce qu'il ne s'agit pas seulement de cultiver, il s'agit aussi de vendre, il s'agit aussi de se vendre, je dirais, au territoire en quelque sorte. Et ça passe pas que par une relation marchande, ça passe par du lien social, ça passe par de l'éducation populaire, de la pédagogie, etc.
Dernier, on a installé un poulailler dans la serre. En fait, ça faisait un moment qu'on cherchait un moyen, comme on chauffe pas hein, les serres, c'est en l'état. On cherchait un moyen de monter un petit peu la température les quelques nuits d'hiver compliquées. Gagner un demi ou un degré, ce serait génial.
Alors, il y a plusieurs moyens, mais le premier qu'on a mis en place, et on en mettra d'autres bientôt en place, c'est d'intégrer des animaux dans la serre. Et là, on s'était demandé comment faire cela pour faire en sorte de ne pas avoir trop de travail d'entretien quand même, parce que qui dit poule, dit fiente, dit odeur, dit éventuelles bactéries, pour le coup, pathogènes. Et quand je suis allée au Japon il y a quelques années, j'ai vu qu'ils avaient un système de poulailler spécifique avec un substrat qui était enrichi en fait en bactéries, en bonnes bactéries, dès le départ, qui fasse que les fientes que les poules allaient laisser se décomposent plus vite que la normale pour éviter les odeurs, pour éviter les mouches, etc. etc. Et de fait, elles peuvent consommer un petit peu de ce substrat. Quand les fientes sont décomposées, ça fait comme un compost un petit peu, mais enrichi en bactéries, en bonnes bactéries, donc c'est très bon pour leur système intestinal. Et à la fin du processus, on prend ce substrat et on l'emmène comme du compost à disposition immédiatement dans la serre. Donc le compost est en place. C'est aussi un des principes de la permaculture, c'est d'essayer de faire des économies d'énergie. Alors souvent on pense à énergie fossile, mais là c'est faire une économie d'énergie humaine. Plutôt que d'aller chercher le compost, c'est quand même assez physique comme manipulation le compost, hein, c'est lourd, il faut mettre ça dans des brouettes, charrier. Donc plutôt que d'aller le chercher très loin, eh bien on l'a juste à côté des cultures. Et là encore, c'est très circulaire comme logique, puisque elles ont droit aux résidus de culture, mais elles nous offrent un substrat pour faire de bonnes cultures. Finalement, la permaculture, elle dit « fait avec l'existant ». Fait avec ce qui est, ce qu'il y a, ce qui existe. Et ce qui est intéressant dans les techniques des anciens, alors il y a peut-être plein de croyances qui ont été véhiculées qui n'étaient pas tout à fait vraies, mais il y a pas mal de techniques quand même qu'utilisaient les anciens qui sont vraies. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avant, n'ayant pas la machine, n'ayant pas tout un tas de solutions qui nous simplifient la vie aujourd'hui, il faut le dire comme c'est, hein, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils observaient beaucoup. Et ils faisaient avec ce qu'ils avaient dans leur environnement. Et de fait, ils avaient trouvé des trucs complètement judicieux qui peuvent être repris aujourd'hui, j'allais dire repris et améliorés. Et donc, tout est fait, effectivement, pour que le système, eh bien, soit autonome, soit résilient, s'autosuffisent d'une certaine façon. Alors, s'autosuffire, ça veut dire être autosuffisant à l'échelle de la ferme, mais ça peut être aussi des ressources locales. Par exemple, le pain dur qu'on donne aux canards en complément, eh bien, ça vient de l'abbaye. Ce sont c'est le pain, les excédents de pain que les moines ne mangent pas et qu'ils nous donnent comme ça parce que non plus ils ne veulent pas gâcher. Ils n'ont plus de canards depuis quelques années. Et on récupère plein de choses comme ça. Il y a le monastère Sainte-Françoise qui est aussi à 1 km d'ici avec des sœurs. Et la sœur en charge des déchets est une sœur super écolo. Son local pour déchets, on pourrait manger par terre tellement c'est propre. Elle nous garde les cagettes en carton, elle nous garde des morceaux de ficelle en chanvre. C'est toute une dynamique qui se met en place à l'échelle locale. Et eux, ça les amuse beaucoup de penser que ça peut être utile à quelque chose, quoi.
En permaculture, il y a vraiment tous les profils, tous les âges, de 16, 18 ans jusqu'à 60, 70 ans, toutes les régions de France, de l'étranger aussi, toujours une ou deux personnes de Belgique en formation, et puis tous les métiers, absolument tous les métiers, boulanger, médecin, chef d'entreprise, électronicien, métier du spectacle. Souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas agriculteurs à la base. Certains sont intéressés, je pense, par l'esprit qui est autour, qui est résumé dans les trois principes de l'éthique de la permaculture, respecter la terre, enfin prendre soin pardon, de la terre, prendre soin des hommes et partager les surplus. Et d'autres personnes vont être très intéressées au contraire plus par les aspects très pratiques, soit des outils pour concevoir un lieu ou les techniques de jardinage. Et puis au final, au fur et à mesure de la formation, on découvre que tout cela c'est intimement lié et donc ils s'intéressent à tout. Ce qui est extraordinaire, c'est quand ils finissent la semaine, ils partent avec encore plus de questions que quand ils sont arrivés, mais c'est des questions beaucoup plus intéressantes. Tiens.
François Léger, beaucoup de personnes qui s'intéressent à la permaculture ne sont pas des agriculteurs au départ. Est-ce que c'est une voie de refuge pour les néo-ruraux ?
Le modèle du bec est loin n'est justement pas un modèle, parce que la grande difficulté qu'éprouvent beaucoup de gens qui se lancent, c'est qu'en fait, d'une part, chacun est dans une situation différente. C'est-à-dire, ce qui est vrai en Normandie ne sera pas nécessairement vrai, bien sûr, en Provence. D'autre part, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Bec-et-Loing a une particularité, c'est des gens qui ont appris extrêmement vite, mais ils ont appris. Et cet apprentissage, ça a un coût. Et l'avantage qu'ils avaient, c'était finalement de partir avec un certain confort économique peut-être, au tout départ. Très vite, ils ont mangé leurs réserves. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que si on disait qu'ils sont dans un très grand confort économique, ils se reconnaîtraient. Mais l'une des grandes difficultés qu'ont beaucoup de gens, c'est que ce temps d'apprentissage, bah, quand vous apprenez, vous n'êtes pas au maximum de votre efficacité potentielle. Et donc, les premières années peuvent être très dures et très décevantes. Très décevantes parce qu'en fait, on découvre par ses erreurs et on apprend de ses erreurs. Mais le problème, c'est que les erreurs, elles ont aussi un impact économique évident. Donc, le risque fondamental pour les gens qui s'installent, c'est de vouloir faire comme ailleurs, comme au bec par exemple, trop vite. Et du coup, ils se prennent les pieds dans le tapis. Et il y a beaucoup de gens qui se prennent les pieds dans le tapis. Plus, hélas, que ceux qui réussissent, sans doute. Mais si on est prudent, si on va doucement, si on commence petit et qu'on ne veut pas faire tout de suite plus grand, tant qu'on n'est pas capable de maîtriser le tout petit peu plus grand qui vous permettra de gagner votre vie, on n'y arrivera pas.
C'est vrai que vous suscitez beaucoup d'intérêt, mais aussi des jalousies, des critiques. Et ça, vous, comment vous le vivez ?
Oui, je comprends complètement qu'on puisse en énerver plus d'un et qu'on susciter des jalousies. Deux citadins qui déboulent, qui n'y connaissent rien et qui, au bout de quelques années, sont encensés par les médias, c'est extrêmement énervant pour tout un tas de gens, je le comprends complètement. Et puis, les chiffres qu'on annonce sont tellement stupéfiants que beaucoup de gens nous prennent pour des menteurs. Le nombre de fois, on dit « ouais, ouais, les résultats de votre étude, vous les pipotez, etc. » Et pourtant, pas du tout. Hein. On a Sacha, qui est ingénieur de haut niveau. Il est d'une intégrité absolue. Donc, on ne truque pas les résultats. Mais je comprends qu'on dérange. Et on dérange finalement plus dans le monde de l'agriculture biologique que les conventionnels. Et les attaques qu'on reçoit viennent plus du monde de la permaculture ou de l'agriculture bio. Ça nous atteint, ça nous blesse parfois, mais ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant.
Pour le monde de la grande agriculture, il s'agit d'expériences exotiques qui n'embêtent personne. En revanche, dans le monde de l'agriculture biologique, c'est vrai que là, la montée en puissance de ce type de ferme correspond quand même, impose une relecture de ce qu'a été une certaine forme de... Alors nous, on appelle ça, c'est un terme un peu barbare, conventionnalisation de l'agriculture biologique. C'est-à-dire que finalement, il y a une partie de l'agriculture biologique qui, dans sa façon de penser, n'a pas d'autre différence avec l'agriculture conventionnelle que de remplacer des produits chimiques par du travail. Par exemple, au lieu de désherber avec des herbicides, on va désherber en passant un outil, en remuant le sol, quoi, en binant. Ça fonctionne, mais finalement, là... dans ces expériences, on a des gens qui sont beaucoup plus radicaux dans une conception écologique de l'agriculture biologique. Des gens qui sont en bio, par exemple, en cultivant avec du plastique, enfin, toute la terre, vous la recouvrez de plastique pour éviter les mauvaises herbes. Quand vous leur dites non, il ne faut pas faire ça, il faut faire plus petit et désherber à la main, pour eux, c'est un choc. C'est une critique qui leur est adressée directement. En fait, le débat fondamental, il est là. Entre, non pas entre l'agriculture biologique et puis les tenants de la permaculture, mais à l'intérieur même de l'agriculture biologique, entre, on va dire, des tendances différentes qui existent aujourd'hui.
Demain, quand il y aura moins de pétrole et qu'il sera plus rare, plus cher, on ne pourra plus survivre avec moins de 3% de paysans, d'agriculteurs. Actuellement, en France, on a, je crois, à peu près 2,8% de la population active et agricultrice. C'est trop peu. Ça ne tiendra pas dans un monde post-pétrole. Et donc les paysans de demain, mettons qu'on remonte peut-être, je ne sais pas, à 10% de paysans, mais les paysans de demain ne viendront plus du monde agricole parce qu'il est réduit comme une peau de chagrin. Donc ça sera des gens comme nous, des transfuges, des bureaux, des usines, des commerces, etc. Ou des chômeurs également, qui deviendront paysans. Et ces nouveaux paysans, et on en voit beaucoup qui défilent ici, ne sont pas attirés par des modèles productivistes, par quelque chose qui fait du mal à la terre, parce qu'il y a aussi une quête de sens derrière tout ça, il y a une quête de cohérence, d'harmonie. Donc, il faut qu'on invente ensemble des nouvelles manières d'être paysan au XXIe siècle, et peut-être à temps partiel, peut-être des installations collectives où on va s'épauler, retrouver des nouvelles formes de solidarité, des nouveaux systèmes d'échange, peut-être partiellement démonétarisés. Quelque part, quand on revisite la manière dont on produit notre nourriture, ça nous entraîne de fil en aiguille à revisiter toute l'organisation de la société. Actuellement, ce qu'on mange est extrêmement dépendant du pétrole. Pour une calorie alimentaire dans notre assiette, on a gaspillé 10 à 12 calories d'énergie fossile. Si on inclut toute la chaîne, depuis la production au sein des fermes, jusqu'au frigo du consommateur. Mais c'est affolant, ça ne pourra pas durer. Qu'est-ce qu'on mangera en 2030, en 2050? Et ça, c'est une vraie question, parce qu'en 2050, il y aura très peu de pétrole. Et il sera beaucoup, beaucoup plus cher. Donc c'est important d'inventer dès aujourd'hui une agriculture post-pétrole, une agriculture du soleil, qui remette probablement la main humaine au cœur du dispositif, mais pas comme un retour au passé, une agriculture de demain. Et du coup, je pense que cette dépendance au pétrole condamne les grandes fermes, parce que à partir du moment où elles produisent beaucoup, elles ont besoin de beaucoup de mécanisation, et puis de toute la logistique qui va derrière, transport, entrepôt, transformation dans les usines, réfrigération, emballage, etc. Alors qu'une micro-agriculture locale, où le panier s'échange directement du producteur au consommateur, ça franchit du pétrole. Et puis cette circulation mondialisée des denrées alimentaires aussi ne sera plus possible. On ne pourra plus manger des haricots du Kenya, de l'agneau de Nouvelle-Zélande, parce que c'est trop gourmand en énergie pour transporter tout ça. Et donc, inexorablement, le retour au local s'imposera, tout simplement si on veut continuer à manger. Quelqu'un qui habite en banlieue, qui a un petit pavillon avec 300 mètres carrés de pelouse, eh bien, peut-être que demain, il va transformer ses 300 mètres carrés de pelouse en 300 mètres carrés de potager permaculturel extrêmement soigné et intensif, et il pourra vivre à tiers-temps, par exemple, de son jardin, nourrir 15 familles du quartier, et puis être, par exemple, prof ou journaliste ou esthéticienne ou dentiste 3 jours par semaine, et puis 2 jours par semaine, être voilà, paysan dans son jardin, chez lui, avec quasiment pas d'investissement, et gagner en qualité de vie. Moi, c'est une vision qui m'enthousiasme, en fait.
C'était Permaculture, une solution d'avenir dans un grand bout de jardin. Merci à Charles et Perrine Hervé-Gruyer, François Léger, Sacha Guégan, Teddy Pérez. Prise de son, François Rivalan. Attaché d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Un documentaire de Lucie Sarfati et François Test pour Sur les Docks.